cours de philosophie première à Saint-Jodard par le Père Marie-Dominique Philippe, le 24 juin 1993.
Il y aurait encore beaucoup à préciser et à voir par rapport à ce que nous disions la dernière fois. Comment la personne humaine doit assumer le corps. Quand je dis assumer, c'est-à-dire faire que ce corps devienne un corps personnel et non pas seulement individuel. L'individu comme tel se retrouve chez les animaux. Une vache est individualisée. Il y a des hommes qui toute leur vie restent des individus. Et il y a le passage de l'individu à la personne. Oui, c'est peut-être cela que Maritain voulait souligner. Ça a été mal souligné, mais c'est peut-être cela. L'individu demande d'être assumé dans la personne. Et notre corps est essentiellement un corps individualisé. Tel que chaque corps est unique. L'équilibre de chaque corps est unique. Je voudrais, puisqu'il ne reste plus beaucoup de cours, montrer humaine assumant le corps qui est le conditionnement substantiel de notre personne va impliquer un devenir, une croissance. Je vous ai déjà dit, quand on regarde un petit enfant dans le berceau, vous ne dites pas « Oh, quelle belle personne !» C'est un petit signe. Qui montre bien que nous devenons une personne humaine. Et ceci est très important parce que ça met en pleine lumière la place de ce conditionnement. moment de cette croissance. Les psychologues s'intéressent beaucoup à cela, puisque d'une certaine manière, ils pensent être les seuls à pouvoir noter les étapes de la croissance. Alors, comment le psychologue note les étapes de la croissance et comment le philosophe doit noter les étapes de la croissance et les étapes de la croissance au niveau de la personne, pas au niveau de l'individu. Alors c'est cela qui serait peut-être très intéressant à voir et à préciser. Est-ce que le psychologue, je mets un point d'interrogation, que ça demanderait là un dialogue avec le psychologue. Et le psychologue insiste énormément sur les étapes de la croissance. Je crois presque trop. On va voir comment. Et le philosophe, philosophie première, la métaphysique, doit montrer comment la personne humaine implique ce développement, cette croissance. Qu'est-ce que c'est que cette croissance au plan philosophique? C'est l'emprise de plus en plus forte de l'âme spirituelle sur l'individu. C'est ça qui caractérise cette croissance humaine. On devient une personne humaine dans la mesure où tout l'individu est entièrement assumé. Vous comprenez? Cette croissance est le lieu de la lutte. C'est le lieu des drames. Et c'est pour ça qu'on peut très bien comprendre, à la manière de Nietzsche, que l'homme, passant de l'individu à la personne, c'est le lieu constant de tous les drames. Et que, alors il exagère, parce que Nietzsche ne voit plus que la croissance. Le drame est toujours dépassé par la finalité. Donc je ne peux pas dire que la croissance de la personne humaine est un drame. Psychologiquement parlant, oui, parce qu'on ne voit que le point de vue du conditionnement. Mais métaphysiquement parlant, j'allais dire que le développement de la personne est une victoire perpétuelle. Ça implique une lutte, mais c'est une victoire qui, au terme, doit s'achever dans un regard contemplatif. La personne humaine est faite pour la contemplation. Elle est faite pour l'amitié. Elle est faite pour la contemplation de Dieu. Alors, précisons bien, quand je termine ma philosophie première à la personne, je ne peux saisir que l'appel à la contemplation, puisque je n'ai pas encore découvert, philosophiquement parlant, l'existence de l'être premier. Mais j'ai regardé les traditions religieuses, et selon les traditions religieuses, je vois que l'homme, dans sa plénitude, atteint la contemplation. Et je devrais, au plan philosophique, justifier cela. Mais je laisse cette ouverture. Et je me pose la question. Est-ce que le développement ultime de la personne est-il bien la contemplation? Vous voyez, c'est là toute la différence entre le regard du psychologue et du philosophe. Et c'est bien au niveau de la croissance et des luttes de l'acquisition de la personne humaine que l'affrontement est le plus grand. Puisque le domaine de la croissance, le domaine du devenir, c'est là où le psychologue est le plus à l'aise. Alors, je reprends ce que j'ai déjà dit plus d'une fois. Vous avez deux regards sur le devenir. Vous avez deux regards sur la croissance. Où vous essayez de saisir le devenir et la croissance pour eux-mêmes. Où vous saisissez dans la croissance et dans le devenir l'émergence de l'esprit. Le philosophe regarde la croissance de la personne humaine en essayant de saisir l'émergence de l'esprit. Tandis que le psychologue ne peut pas. C'est là où on voit que pour une éducation, s'il n'y a pas le point de vue métaphysique, vous ne pouvez pas éduquer une personne humaine par le point de vue purement psychologique. Par le point de vue psychologique, vous pouvez dénouer certains nœuds momentanément. Je dis momentanément, partiellement, du côté de la cause matérielle, du côté de la cause efficiente, mais pas du côté de la cause finale. Or, on ne peut dénouer vraiment que par la victoire. Il faut comprendre l'émergence de l'esprit. Et donc, il est nécessaire de comprendre la finalité de cette croissance. Toute croissance n'est intelligible que par son terme. Je prends toujours l'exemple très simple et très bête. Vous allez à la gare et vous prenez un billet. Je veux voyager. Où est-ce que vous allez? Je ne sais pas, je veux voyager. Alors, celui qui sera obligé dira, mais vous êtes fou. Je crois que les anges doivent nous considérer comme des fous. Ils sont au guichet, eux. La croissance de la personne humaine, quel est son terme? Si je suis fait pour être un sportif, et uniquement un sportif, maintenir la souplesse de mon corps le plus loin possible pour que je puisse arriver toujours à me mettre dans la situation de celui qui rejoint par ses doigts de pied son nez. L'idéal, garder la souplesse. Bon, c'est admirable de voir des gosses qui font du ski et qui font des tournes comme ça. C'est extraordinaire. Une personne humaine arrivée à son stade adulte ne pourra plus faire ça. Donc il a diminué. Régression. Parce que le corps perd sa souplesse. Alors, est-ce que c'est un deuil? Ou est-ce que ça n'a pas d'importance si sa finalité est présente? C'est très important de comprendre cela, vous comprenez? pour être un animal supérieur, un sportif. Et tout est donné là-dessus. Le sportif, c'est l'individu parfait. Ce n'est pas une personne. Et quand vous voyez que la compétition du sport, c'est l'individu. Et l'individu n'a pas de finalité propre. Il a la finalité de l'espèce, puisqu'il est revenu à l'animal. Tandis que la personne, elle a une finalité propre. Et elle assume l'individu. Et l'individu, dans la personne humaine, c'est une personne humaine terriblement individuée, mais dépassant tout le temps le point de vue de l'individu. Je ne contemple pas mes limites. Contempler ses limites, c'est une régression. Assumer ses limites, c'est être dans la croissance. Donc il y a là un regard très important, capital. Autrement, il n'y a pas d'éducation. Il n'y a qu'une seule éducation chrétienne, si on est chrétien. Parce que si vous avez une éducation dite humaine, alors quoi ? Vous allez finaliser sur quoi ? Humaine, laïque, vous voyez ce que je veux dire ? C'est, je crois, très important, ça. Et ça revient au problème, vous voyez, du devenir et de l'être. Est-ce que l'être est enfoui dans le devenir ? Ou est-ce que le devenir est toujours dominé par l'être ? Quand je pose le problème comme ça, nous sommes tous d'accord. Et quand je repose au point de vue d'éducation, nous ne sommes plus tous d'accord. C'est curieux. Alors il faut bien comprendre ça. Et là, vous voyez, c'est très vrai que dans la croissance, je regarde la distinction personne-individu, mais je mets un ordre entre les deux. Alors, une fois que j'ai compris cela, que la croissance a un terme, qu'elle soit une croissance humaine. Et toute l'éducation porte pour aider cette croissance. S'il n'y avait pas de croissance, il n'y aurait pas d'éducation. Il n'y aurait pas besoin. C'est la remarque très simple de Platon. Le petit enfant naît dans la fragilité et la faiblesse. C'est pour ça qu'il a besoin d'une mère. Le petit animal naît beaucoup plus avancé comme individu. C'est curieux que la personne fait une régression de l'individu. Quand on réfléchit à ça, mais c'est vrai, Dieu dit ça. À Bâle, ils ont fait, il y a quelques années, des expériences comme ça. Une maternité assez particulière, où on prenait des petits singes et des petits de la femme. Et au début, les petits singes l'emportaient toujours, prix d'excellence, de l'individu. Et à partir de 6 mois, je crois, ou 7 mois, je ne sais plus, quelque chose comme ça, le petit enfant de l'homme et de la femme l'emportait tout le temps. Il continue de croître. Il y a dans l'homme une capacité de croissance étonnante. C'est l'animal qui a cette capacité la plus grande de la croissance. Parce qu'il commence dans la plus grande fragilité et il termine dans la plus grande autonomie. L'autonomie du contemplatif. Et c'est toujours une victoire sur l'individuation du corps, sur le conditionnement individuel du corps. C'est une victoire perpétuelle, avec des nœuds C'est là où il faut complètement transformer la vision de Freud. La vision de Freud, c'est la croissance de l'individu, et non pas de la personne humaine. Et la croissance de l'individu, alors on comprend très bien, il faut éviter les nœuds. Dans la croissance de la personne, il ne faut pas les éviter. Il ne faut pas les multiplier, il y en a déjà assez. Et ça, c'est l'éducateur. L'éducateur, c'est celui qui est capable de comprendre les nœuds, mais de les comprendre dans une vision de sagesse. Et non pas dans une vision purement psychologique. Et de sagesse chrétienne. Puisque on n'éduque qu'un chrétien. On n'éduque pas simplement un individu. Ou une personne humaine. Très très important de comprendre. Il y a une éthique chrétienne, il y a une éducation chrétienne. Et je ne peux pas mettre entre parenthèses éducation chrétienne. Je ne peux pas. C'est la tentation de faire de la psychologie une science. Alors la psychologie n'est pas une science. Elle est au service de l'éducation. Elle est pour l'éducation. Elle n'est pas une science autonome. Il y a des lois, mais il n'y a pas de principe. Principe propre. Alors, il faut essayer de comprendre, vous voyez, toute la période de la gestation. C'est bien évident que le philosophe doit être très attentif à cela. C'est très étonnant de voir cela. Là, je ne peux pas. Mais je dois dire, hein, et ça je crois que c'est très important, que c'est toujours dans une vision de sagesse que, en définitive, je peux regarder l'éducation. Mais je peux comprendre à un niveau de philosophie première qui n'a pas encore découvert l'existence de Dieu ce moment si important de la gestation, où le corps de l'homme, le corps du tout petit enfant est formé. Et là se pose le problème. Est-ce que je puis préciser le moment de la création de l'âme? C'est important, le passage de l'individu à la personne. C'est quand même très important. C'est même capital. Puis-je le préciser? Ou est-ce que je ne peux pas le préciser? Pour la naissance de Jean-Baptiste, c'est tout à fait ce qu'il faut. Puisque la gestation de Jean-Baptiste a été très extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui, à 6 mois dans le sein de sa mère, s'est mis à danser. C'est pour ça que j'ai dit aux charismatiques que Jean-Baptiste est le patron des charismatiques. Il a dansé sans comprendre, sous l'action de l'Esprit-Saint. Et ça a dû faire un traumatisme extraordinaire pour sa mère. Un traumatisme au point de vue psychologique. Une béatitude au point de vue éducation chrétienne. Le double regard. Bon, je crois que c'est très important. Il y a tout un point de vue philosophique qu'il faudrait regarder très attentivement et voir si on peut préciser le moment où l'âme est créée. Alors vous allez dire, on n'a pas encore parlé de Dieu. Oui, mais on a parlé de l'âme dans la philosophie du vivant qui ne peut pas venir des parents, donc elle vient d'autre part. Et ce serait, du reste, une manière de prouver l'existence d'un être premier capable de créer une âme spirituelle. C'est peut-être une voie d'accès à Dieu. est sûr, c'est que cette phase est une phase où le corps de l'homme, le corps de l'embryon, est une terrible fragilité, une terrible vulnérabilité, et où l'homme, dans sa science, essaie de connaître de plus en plus cette étape souterraine et de voir s'il peut la modifier ou pas la modifier. Je connais un médecin, chirurgien, justement de cette phase première, et posant des problèmes extrêmement intéressants. Est-ce que l'homme a le droit d'intervenir ou pas? Du moins qu'il pourrait y avoir des malformations. Je dirais qu'il pourrait y avoir, parce que tout est en devenir. C'est lors de la disposition. Mais, comprenez bien ce que je veux dire. Il y a une analogie merveilleuse. L'embryon est pour l'homme qui est né ce que Jean-Baptiste est. L'Ancien Testament est dans un état embryonnaire. C'est l'Église embryonnaire. En gestation. Tout est dans l'ordre du devenir. Et Jean-Baptiste est au terme de la gestation. Et avec la naissance du Christ et la naissance du Christ ordonnée à la croix, L'Église naît à la croix. On voit toute la différence entre les deux. Naissance de Jean-Baptiste, naissance du Christ, naissance de l'Église. Regardez ces trois aujourd'hui. Il est évident que la gestation se termine par la nativité, par la naissance. Et la naissance représente quelque chose de très étonnant. Alors, les psychanalystes freudiens sont très troublés par ce traumatisme étonnant de la naissance. J'ai entendu des psychanalystes freudiens me parler de la naissance et du traumatisme de la naissance. Alors, quand je leur dis, mais c'est naturel, alors là, ils ne savent plus quoi dire. Parce que c'est évident, si je regarde uniquement le contexte du conditionnement, c'est passé des catacombes à notre univers. Le petit enfant passe du sein maternel à l'univers. Il est livré à l'univers. C'est effrayant. C'est pire que de se jeter dans l'eau. Là, c'est l'inverse. Sur la terre, elle est livrée à la terre sans défense. Alors je comprends très bien que la vision purement du conditionnement dit que c'est le traumatisme le plus terrible qui soit. Alors c'est pour ça qu'ils sont si attentifs à savoir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, hein. Rappelez-vous le moment où vous êtes né, hein. Rappelez-vous ça, hein, ce traumatisme effrayant que vous avez vécu. Vous êtes passé du sous-marin à bateau sur la terre. Et vous avez dit terre, et terre. Mais il y a un moment, et eux ne voient que le conditionnement. Si je vois la nature, puisque pour Freud, la nature c'est le S, donc c'est la détermination la plus absolue. Et il n'y a comme détermination que le conditionnement. Et c'est important de voir ça. Si vous voyez la nature, vous dites, c'est naturel. La naissance est chose naturelle. Donc il n'y a pas de traumatisme. Il peut y avoir des choses accidentelles, alors, qui provoquent traumatisme. Mais la naissance normale n'est pas un traumatisme. Et c'est curieux, voyez, c'est cela que Hésiode a vu en transposant ça en Dieu. La mère qui garde ses enfants, qui ne veulent pas que c'est qu'ils naissent. L'accaparement maternel qui veut garder son bien, parce que dès qu'il passera dans un milieu de l'univers, ce n'est plus son bien. Il est donné à l'univers. Analogiquement, comprenez bien, analogiquement, le passage d'une petite famille religieuse à l'institution. Elle est livrée à l'Église. Alors que tant qu'elle est familiale, elle est familiale. C'est très intéressant de regarder ces passages. Et fondamentalement, il y a ce conditionnement radical. On est entièrement pris par la mère. Nous avons tous vécu ça. Je crois inconsciemment, par miséricorde de Dieu, sans être incapable de porter ça. Je crois qu'on l'a vécu inconsciemment. Et quand on veut le faire naître consciemment, je crains que cet imaginaire, je crains beaucoup cet imaginaire. Alors, cet imaginaire, et pour toute la vie, on reste dans l'imaginaire. Il y a des gens qui ne pensent qu'à leur nativité. De méditation. J'espère que ce matin, ça n'a pas été votre raison. Moi, je suis né comme Jean-Baptiste. Je suis passé du sein maternel à l'univers. Et Jean-Baptiste a vécu ça. Vous voyez, ce n'est pas objet de méditation. Pourquoi ? Parce que c'est substantiellement naturel. Et le cogito Descartes n'existe pas encore à ce niveau-là. Pauvre Descartes. Vous voyez, le cogito, il n'explique pas tout, puisqu'il n'explique pas le passage du sein maternel. Sauf peut-être Descartes, qui a dû naître en disant « cogito ». Il n'a pas dit « terre », il a dit « cogito ». Ergo sum. Donc il y a quelque chose qui échappe complètement à Descartes. Et qui est aujourd'hui très important. On insiste peut-être un peu trop, c'est pour ça que je crois que c'est très important d'avoir un regard réaliste sur ce premier moment. Ce n'est pas un traumatisme, sauf dans certains cas. Il peut y avoir des accidents. Il peut y avoir un traumatisme. Quand on est obligé de... que la naissance ne se fait pas normalement et qu'on est obligé d'intervenir et quelquefois qu'on abîme le tout petit tellement vulnérable. Ça existe. On connaît tous des cas comme ça. Puis, la période où l'enfant est totalement remis à sa mère. Le kangourou. Deux milieux qui seraient très importants philosophiquement à étudier, pas seulement psychologiquement, parce que psychologiquement je ne peux pas dire grand chose, mais philosophiquement je peux dire. Le philosophe descend dans des catacombes naturelles plus profondément parce qu'il regarde la causalité matérielle et maternelle. Le milieu maternel est le premier milieu d'enfant après la naissance. Et c'est la mère des deux côtés. Mais d'un côté, c'est la mère au niveau de sa vie végétative, humaine. Elle est consciente de cela. Et elle est joyeuse de la naissance. Et puis, ensuite, la mère qui offre ce milieu, surtout quand la mère nourrit l'enfant, il y a bien très unique où la conscience commence à s'éveiller. Alors, quelle est la conscience du tout petit enfant à l'égard de sa mère? Ça reste là aussi très caché. Et donc, très indéterminé. Mais Yann, étonne-vous. Je dis, c'est à partir de la naissance que la personne humaine va commencer à assumer l'individu. Mais d'une manière très embryonnaire, dans ce milieu premier du tout petit et de sa mère, où le conditionnement joue un rôle encore très important. Et quand je dis le conditionnement, je veux dire toute l'influence du milieu. Et alors là, on voit très bien, et ce serait très intéressant à voir, la différence de civilisation. Du temps de Plotin, le sevrage pouvait se faire à 6 ans. Et comme c'est curieux, et comme ça doit avoir toute une influence sur le petit, encore dépendant de sa mère, consciemment. Et pour nous, dans des civilisations dites plus cultivées, le sevrage se fait de plus en plus vite. Et beaucoup de mères, au fond, ne sont plus celles qui sont les mères nourricières de l'enfant. Alors, artificiellement, je dis bien artificiellement, on veut remplacer la mère. Pour des tas de raisons. Il faut essayer de réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que ça représente? Vous voyez, l'art qui intervient. Dans certains cas, c'est très bien quand la mère ne peut pas allaiter son enfant. Mais est-ce que ça doit être comme un principe? Ou est-ce que c'est supprimer le point de vue de la nature et supprimer ce lien premier? Vous savez bien, ce psychanalyste de Neuchâtel, qui veut être, il est mort maintenant, grâce à Dieu, ce psychanalyste de Neuchâtel qui voulait être plus freudien que Freud, et comme il disait, plus comme les royalistes peuvent être plus royalistes que le roi, eh bien je suis plus freudien que Freud. Freud a montré les dégâts du père, moi je montre les dégâts de la mère. Et pour lui, il fallait à tout prix le sevrage le plus rapidement possible, non seulement au point de vue de la nourriture, du lait maternel, mais au point de vue affectif, en disant que le lien entre l'enfant et la mère est quelque chose qui empêche l'enfant de découvrir son autonomie. Et donc on coupait cela. Et de fait, il ne faut pas l'oublier, en Israël, poussant jusqu'au bout le point de vue socialiste, on commençait à séparer l'enfant de la mère tout de suite. Et on donnait l'enfant 1 heure ou 2 heures à la mère par jour pour libérer ce lien affectif qui est trop fort, qui risque d'être trop fort. Puisqu'aujourd'hui, on explique beaucoup de choses par ce lien affectif trop fort. On veut expliquer beaucoup de choses. On veut expliquer beaucoup de choses parce qu'on veut expliquer les refoulements premiers. Le refoulement de l'autorité du père, le refoulement de l'accaparement de la mère. Et tous les déséquilibres sont là. Point d'interrogation. Je crois qu'on doit garder le point d'interrogation. Il ne faut pas considérer ça comme des données sûres. C'est des hypothèses de recherche. Oui, le philosophe doit être très critique. De jamais confondre une hypothèse de recherche avec un principe. L'hypothèse de recherche aboutit à des lois. Alors, ces lois restent-elles humaines ou sont-elles plus humaines? Vous voyez? Donc, il y a là un point de départ extrêmement intéressant. Individu, personne. Et génétiquement, je comprends très bien le point de vue de Maritain. Vous voyez, cette distinction d'individu et personne est une distinction qui doit se prendre du côté du pous, du côté génétique, du côté de la croissance. Alors là, c'est valable et c'est intéressant. Mais comprenons bien que cette distinction individu et personne doit se résorber de plus en plus. Quand on a 20 ans, doit-on faire encore la distinction entre individu et personne? Oui, du côté conditionnement et du côté finalité. Mais surtout pas de séparation. On peut regarder ensuite. Vous voyez, je crois que la croissance, au point de vue philosophique, doit se voir dans l'importance décroissante du milieu. C'est peut-être un des aspects les plus importants, puisque je suis en face du conditionnement et de la finalité. Toute la croissance de la personne, c'est la conquête de la finalité sur le conditionnement. Or, ce conditionnement dépend énormément du milieu dans lequel on est. Le premier milieu, c'est la mère. Le second milieu, c'est le père. Alors, reprendre ce que Freud dit, mais d'une manière saine, et non pas d'une manière maladive. Parce que tous les pères ne sont pas maladifs, et toutes les mères ne sont pas accaparantes. Il y a des vraies mères qui sont mères, et qui sont oblatives, comme on dit, tout simplement qui aiment normalement leur enfant. Et qui savent que l'enfant a besoin d'amour, parce que son intelligence n'est pas encore très développée. Et donc le premier milieu est un milieu maternel de chaleur et d'amour. Pour que l'enfant aime son corps, et la mère doit aimer le corps de l'enfant, puisqu'il provient d'elle, elle en est la source. Pour le premier développement de la sensibilité affective. Mais comprenons bien que ce premier développement affectif n'est pas animal, il est humain. Et comment est-il humain? Il est humain parce que l'intelligence humaine est présente dans cette affectivité. On ne peut pas dire du tout qu'il y a un moment où le petit enfant est un petit animal. C'est Monod qui dit ça. N'est-ce pas? Et Monod n'est pas un maître dans l'ordre de la personne humaine. Il y a donc une phase importante, les deux phases, je crois. La phase de la mère qui porte son enfant. Et là, on doit éduquer les mères. Je me rappelle toujours la réflexion d'une vraie mère qui disait, c'était tout, au début de ce siècle, une mère, quand elle porte son petit, elle est mobilisée par lui et elle vit pour lui. Aujourd'hui, on veut s'en libérer le plus possible. Pouvoir jusqu'à la fin être libre. Parce qu'on considère l'enfant comme un fardeau et non plus comme un don de Dieu. C'est très juste ça. Et je crois que c'est très très juste et c'est très grave. Et il y a une éducation qu'on doit rappeler aux mères, c'est que portant leur petit, il est livré à la mère. Et que la mère doit le porter comme un don de Dieu, si elle sait que l'âme est créée par Dieu. Et qu'elle doit le porter avec l'amour de Dieu. il se détachera parce qu'il est mûr. Et la mère doit avoir ce sens-là, encore beaucoup plus, puisque ce fruit est bien plus important. Alors, là, il y a un premier moment, les catacombes, puis le second moment, où la mère joue encore ce rôle très important et très unique. Évidemment, le père peut intervenir et quelqu'un peut remplacer la mère. Tandis que le premier moment, la mère est irremplaçable. On essaie de la remplacer aujourd'hui. Les mères porteuses. Et c'est très significatif, on dit les mères porteuses. On porte un fardeau. On porte pas un don. Le don vous allège. Alors, il faut comprendre cela, parce qu'on est en train de détruire l'espèce humaine. Ça, il faut le voir. Alors, il faut voir où il y a destruction, où il y a un art qui aide la nature. Mais quand l'art aide la nature d'une manière telle qu'il n'y a plus que l'art, on détruit la nature. Donc, on détruit le don fait par Dieu. Puis alors l'intervention du Père, je crois que c'est très important. L'intervention du Père qui est nécessairement une intervention plus extérieure et qui est l'intervention de celui qui est moins présent, qui est présent ponctuellement. Le Père est toujours présent ponctuellement. De temps en temps, c'est la mère qui travaille et le Père qui fait l'office de mère. Ça arrive, mais c'est pas, je ne crois pas que c'est excellent. Mais ça peut arriver. Je connais des cas comme ça. Et ordinairement, c'est parce que le père manque un peu de force. Alors il est trop maternel. Et la mère est trop virile. Ça fait des petits échanges assez curieux. Mais ça peut arriver, il faut respecter ces choses-là. C'est pas le prêtre qui va commander ça, c'est le foyer. Ils font ce qu'ils peuvent. Et le prêtre doit être attentif à ça, pour donner des conseils qui soient justes. Et s'il n'y comprend rien, il dit, je n'y comprends rien, demandez ça à un bon psychologue. Attention, un bon psychologue, c'est-à-dire quelqu'un qui est suffisamment réaliste pour comprendre ce qu'on représente, ce premier développement. Donc vous voyez, il y a, et il faudrait discerner, étapes au plan philosophique. Nous n'avons pas le temps de le faire, mais ça, vous pouvez le faire. Vous voyez, vous pouvez le faire. Ce serait très intéressant, une question disputée là-dessus, vous voyez. Les étapes au plan philosophique. Et donc, au plan philosophique, c'est l'émergence de l'intelligence. À quel moment l'intelligence a-t-elle vraiment émergé? Atteint l'universel, a-t-elle dépassé l'imaginaire? Parce qu'il est évident que dans la phase la plus végétative des catacombes, l'intelligence n'émerge pas beaucoup, ni du côté de la mère, ni du côté de l'enfant. C'est pour ça que j'ai connu des cas où la mère était philosophe, vraiment très intellectuelle. Et pour elle, porter un enfant, son enfant, c'était terrible, puisque elle ne pouvait plus avoir la conscience plénière de ce qui se passait. Elle subissait la force de la nature. Et la force de la nature est très grande, puisque le philosophe montre que la procréation, c'est le sommet de la vie végétative. Opération substantielle. C'est le sommet de la vie végétative. Donc, c'est à ce moment-là où la vie végétative s'impose avec toute sa force. selon les milieux. Vous savez ce que les psychologues ont dit, et je crois que c'est juste, c'est du reste intéressant, que le point de vue de l'éducation pour la formation de la personne, c'est 60%, et l'atavisme 40%. Il faudrait vérifier ces chiffres. Moi, je donne ces chiffres d'il y a 10 ans, je ne sais pas si ça a changé. Mais je trouve ça très intéressant. Si c'est vrai, c'est très intéressant. Vrai, c'est toujours une hypothèse. C'est pas une certitude. On est dans un domaine du devenir. Je trouve ça très intéressant pour les adoptions. L'atavisme, 40%. L'éducation, 60%. Pour la formation. Donc, ce que le père transmet, ce que la mère transmet, son point de vue, non plus de l'individu, de la vie végétative, qui est tout l'atavisme, sur lequel elle subit. Enfin, vous savez bien, c'est la découverte des ressemblances, qui est toujours une chose assez terrible. Le petit ressemble à l'oncle dont on ne parle jamais. Ça arrive. Un grand oncle, brigand, un peu fou. Il retrouve des traces. L'atavisme est une chose extraordinaire. Alors, voir que c'est 40% et que l'éducation l'emporte, la victoire de l'esprit, voyez, la victoire de la personne sur l'individu. Parce que l'atavisme, c'est l'individu. Et la victoire de l'esprit. Alors c'est cette victoire de l'esprit qu'on doit tout le temps voir dans l'éducation et dans la croissance de la personne. Et voir les moments où l'esprit va apparaître au-delà de l'affectivité. L'affectivité, du point de départ, est capitale, mais elle peut être encombrante. Mère terriblement affective, comme une armoire à glace, qui couvre le petit. Dès que le petit crie immédiatement, et puis si on n'est pas là pour une affectivité qui fait que le petit ne peut jamais arriver à dépasser cette affectivité. Parce que l'affectivité de la mère, elle est quand même une affectivité d'une personne de 25 ans, ou de 20 ans, ou de 30 ans. Tandis que le petit, et alors elle empêche l'éveil de l'intelligence. On peut empêcher l'éveil de l'intelligence. Et on restera alors toute sa vie. Un enfant, c'est délicieux, mais c'est ennuyeux. Quelqu'un de 25 ans qui a l'affectivité de quelqu'un de 15 ans, c'est gênant. Déséquilibre. Il n'en peut rien, le pauvre individu. L'éducation a été cela. Oui, alors, tous les problèmes, c'est pas mon rôle ici, mais je crois que philosophiquement, on doit comprendre l'importance de la croissance. Et dans la croissance, voir les refoulements. Les refoulements doivent se comprendre, non pas du tout comme Freud, mais doivent se comprendre du côté de l'émergence de l'intelligence. Parce que c'est toujours le côté affectif qu'il faut l'emporter. Et alors comprendre comment l'intelligence doit être victorieuse, ça. Pour la finalité. Découvrir la finalité. Et c'est l'intelligence qui découvre la finalité. Et être conscient de cela. Autrement, on reste dans l'inconscience. Et il est sûr que l'imaginaire et les refoulements. Alors ce serait intéressant de souligner à quel moment les refoulements sont les plus forts et risquent d'être déterminants. Parce que la maladie, au point de vue de la croissance de la personne, c'est quand les refoulements déterminent. termine. Tant que les refoulements augmentent la disposition et grossissent la disposition quantitativement, c'est toujours du côté quantitatif les refoulements. C'est jamais du côté affectif. C'est toujours les sensibles communs. C'est pas les sensibles propres. Il n'y a pas de refoulement pour les sensibles propres. Tous les refoulements sont du côté des sensibles communs. Parce qu'ils sont imaginaires. Tous les refoulements sont imaginaires. Mais l'imagination peut être tellement forte qu'elle fait un poids terrible sur le conditionnement. Et que le conditionnement, à ce moment-là, empêche l'émergence de l'intelligence. Et c'est là où tout Freud doit être repris. En voyant les émergences de l'intelligence.